Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, absolument pile. Nous sommes le lundi 17 décembre 2018 et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. D'abord parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Ludwig van Beethoven, un compositeur qui, vous ne le savez peut-être pas, a beaucoup inspiré de Bully Copain, notamment parce qu'il était sourd. C'est aussi un jour particulier parce que c'est l'anniversaire d'Eddie Kendricks, le chanteur mythique des Temptations. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Mathieu.
Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si My Girl est bien un titre des Temptations.
Je pense que oui, enfin, je fais confiance.
Faites-moi confiance. Et enfin, c'est un jour particulier puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un collègue d'Europe 1, que dis-je, un collègue, un ami. Et comme tous les ans, ce sera compliqué de trouver le bon cadeau qui fait plaisir, car c'est bien simple, il a déjà tout.
Des choses en cuir, en latex, des fouets, des cravaches, des martinets.
Sacré Christophe Ondelat, bel anniversaire à lui, va pour une carte cadeau chez Castorama.
Mais c'est vrai, c'est l'anniversaire de Christophe Ondelat.
Oui, sinon ça n'aurait pas de sens.
Ah bah oui,
en parlant de cuir.
Pardon, mais
En parlant de cuir, bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour
vous
à tous.
Vous aviez une question pour les auditeurs, je crois.
Oui, parce que vous allez voir dans la presse ce matin, il est beaucoup, beaucoup question des jouets à la mode pour ce Noël 2018. Mais vous, quel est le jouet qui a marqué votre enfance? Vous
Docteur nous envoyez. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui.
Voilà, chouette, voilà. Vous nous envoyez vos réponses.
Il y a une continuité dans ma carrière.
Sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Je crois, les amis, que tout le monde est prêt. J'espère que vous aussi qui nous écoutez, vous êtes prêts, car c'est le 81e numéro de. Debout les copains, 2 heures de folie informative avec aussi de sublimes carillons.
Oui, nous sommes le lundi 17 septembre. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 5h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce lundi 17 décembre, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Quels salariés rémunérés au niveau du SMIC vont réellement toucher les 100 € supplémentaires promis par le président? Édouard Philippe apporte des précisions ce matin. Décryptage dès le début du journal. Cela ne concernera pas tous les salariés au salaire minimum, vous l'entendrez. Le Premier ministre qui reconnaît par ailleurs que le pouvoir n'a pas assez écouté les Français et il ouvre le débat sur ce qui devient l'une des grandes revendications des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. À Strasbourg, on l'a appris hier soir, l'attentat de mardi dernier a fait une 5e victime. Les sports et un formidable doublé pour les Bleus du handball. Les Françaises sont ce matin championnes d'Europe, un an après le titre de championne du monde.
Europe 1.
On en sait plus ce matin sur les mesures annoncées la semaine dernière par Emmanuel Macron pour tenter de répondre à la colère des Gilets jaunes. Le Premier ministre Édouard Philippe les détaille ce matin dans un entretien au journal économique Les Échos. Et celle sur laquelle l'attente est la plus forte, c'est l'augmentation de 100 € pour les salariés payés au niveau du SMIC. Et finalement, Olivier Samin, eh bien la promesse présidentielle ne concernera pas tous les salariés proches du SMIC.
Et non, à la moitié seulement. Car le choix finalement retenu par le gouvernement, c'est de passer par la prime d'activité que versent les caisses d'allocation familiale aux travailleurs modestes. Or, cette prime d'activité, elle est attribuée non pas en fonction de votre seul salaire, mais en fonction des revenus de votre foyer. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, vous avez beau être payé au SMIC, vous n'aurez pas droit à la prime d'activité et donc vous n'aurez pas droit aux 100 € de plus par mois. Alors, qui les touchera ces 100 €? 3 exemples. Le célibataire sans enfant qui gagne le SMIC, lui, c'est sûr. Et même celui qui gagne un peu plus que le SMIC, jusqu'à 1 560 € net par mois. La personne qui élève seul un enfant et dont les revenus vont jusqu'à 2 000 € net par mois, elle aussi touchera les 100 € supplémentaires. Le couple avec 2 enfants qui gagne jusqu'à 3 000 €, là, si les 2 membres du couple travaillent, chacun touchera 100 € de plus par mois. Ce sont des exemples. Édouard Philippe affirme qu'au total, 1 200 000 foyers supplémentaires vont devenir éligibles à la prime d'activité, ce qui représentera 2,5 milliards d'euros de plus au profit des ménages.
Et cela fait au total 5 millions de foyers éligibles. Merci Olivier Samin. Premier versement prévu le 5 février prochain. Par ailleurs, l'ensemble de ces mesures se chiffre à environ 10 milliards d'euros, précise le Premier ministre. Le déficit de l'année prochaine devrait en conséquence légèrement se creuser pour atteindre 3,2% du produit intérieur brut. Il était prévu à 2,8%. Ces mesures doivent être présentées en Conseil des ministres mercredi.
Le Premier ministre qui s'est également exprimé sur ce que les Gilets jaunes appellent le référendum d'initiative citoyenne.
C'est devenu l'une de leurs principales revendications. Édouard Philippe parle d'un bon sujet pour les débats qui vont s'ouvrir dans toute la France ces prochaines semaines. Par ailleurs, comme le président lundi dernier, Édouard Philippe a concédé des erreurs. Nous n'avons pas assez écouté les Français, dit-il. Et sur les ronds-points ou au péage, restent quelques milliers d'irréductibles Gilets jaunes. Alors qu'avant-hier, la mobilisation était en net recul, à moitié moins. L'exécutif estime désormais que la libération des ronds-points est une priorité, alors que dès ce week-end, de nombreux automobilistes prendront la route pour les vacances.
Europe 1, il est 5h03.
On déplore la mort d'une cinquième personne après l'attentat de Strasbourg samedi dernier.
Figure de la vie culturelle strasbourgeoise, musicien Bartó Pedro Orenk Niedzielski, surnommé Bartek. Il était originaire de Pologne, il avait 36 ans et était en état de mort cérébrale. Hier, des centaines de personnes se sont recueillies place Kléber pour un hommage aux victimes. Un proche du tueur reste en garde à vue. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur de l'Élysée, est poursuivi pour d'autres violences, toujours le 1er mai. Elles auraient été commises au Jardin des Plantes, juste avant les événements de la place de la Contrescarpe.
Il était le dernier des trois frères fondateurs d'un des plus célèbres groupes électroménagers français.
C'était en 1957. Bernard Darty est décédé samedi à Miami, en Floride. Il avait 84 ans. La marque est devenue emblématique, hein, justement grâce au flair de Bernard, Nathan et Marcel Darty, trois frères au flair singulier, Théo Manval.
Ils n'auraient jamais dû faire de l'électroménager. Au départ, les frères Darty voulaient seulement développer l'entreprise de textile de leur père. Mais quand ils rachètent pour s'agrandir le local voisin d'un magasin d'électronique à Montreuil en 1957, ils écoulent le stock en quelques heures et vont donc garder le créneau. Avec leur flair et des idées avant-gardistes, explique Yves Puget, directeur du magazine LSA.
Ils ont vu que les téléviseurs, les ventes allaient exploser. On est dans les années 50, mais le téléviseur coûte 1000 francs, c'est cher. Ils font du crédit. Ils ont eu l'idée d'allumer les téléviseurs dans les vitrines pour attirer le chaland. Ça a marché. Ils ont inventé le SAV. Mais surtout, cette stratégie, ils l'ont gardée dans le temps. Donc c'est dans l'imaginaire des Français. Tout le monde connaît la camionnette.
Et tout le monde connaît le slogan, le contrat de confiance, les pubs aussi à la télé avant la météo. Des trois frères, Bernard Darty était surnommé le stratège. Il sera le seul à devenir PDG du groupe pendant près de 20 ans. Il était retiré depuis 93, mais gardait toujours un œil sur les affaires, même après le rachat par la FNAC il y a 2 ans. Et signé cet été encore une tribune pour dénoncer la menace représentée, disait-il, par la pieuvre Amazon.
Théo Manval. Et puis, si je vous dis Mathieu, légende du folk plus prix Nobel de littérature.
Cool and the Gang.
Bah non. Bob Dylan.
Bob Dylan.
Elle
parle
loin.
Ce matin, il se produira au Grand
ça
Rex à Paris. Trois dates, les 11, 12 et 13 avril prochains, dans le cadre d'une tournée européenne qui démarra le 31 mars.
Il reste des places ? Bah, c'est déjà un petit peu plein.
Ça a été annoncé hier soir. Alors.
Ah oui, peut-être alors. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Jérôme qui ce week-end aurait enfin réussi à passer un peu de temps avec sa dulcinée Céline Dacosta. Vous confirmez cette information Céline, un beau moment de tendresse?
Ouais, ça va, c'était bien fait. Puis on n'est pas filmé donc ça va.
Oh, vous devez être fatigué mon GG. Vous restez assez sous la pédale pour un petit journal des sports quand même. À la une.
Champion de cette Euro Femina 2018, l'équipe de France.
Nouvelle médaille d'or pour les Bleus du handball après l'or mondial l'année dernière. Les filles de l'équipe de France ajoutent le trophée européen championne d'Europe. Victoire hier en finale donc de l'Euro 24-21 face aux Russes. Et revanche est prise. Hein. 2 ans après la finale des JO qui avait opposé ces deux mêmes équipes. Mais là, la victoire avait été russe. Hier, la consécration continentale, elle était bien française. Et en plus, c'était à Paris, à Bercy, vous avez entendu plus de 14 000 personnes peu après le coup de sifflet final, les vertiges de Grace Zahadi.
C'est un truc de malade. Honnêtement, c'est un truc de malade de vivre ça. D'avoir pu vivre ça ici, à Paris, devant nos familles, devant nos amis. Ça a été quelque chose de très très fort. Je suis bien heureuse de faire partie de ce groupe, de faire partie de cette génération et de pouvoir le vivre parce que c'est quelque chose d'unique.
Alors, une solidarité sans faille, une attaque détonnante, une défense rugueuse, l'esprit de la gagne. Voilà quelques ingrédients du premier succès européen de l'histoire de l'équipe de France de hand féminine. Mais pas seulement. Écoutez, Béatrice Edwige, bleue depuis 2013.
J'ai l'impression que depuis que je suis là, on fait que des médailles. Et ouais, je suis trop contente. Je dis pas que c'est moi le porte-bonheur, mais bon, presque.
Ben voilà, des propos recueillis par Christophe Lamar. Je vous l'ai mis parce que c'est vraiment emblématique de l'état d'esprit de ce groupe. Il y en a plein qui sont toujours en train de, passez-moi l'expression, de déconner, notamment devant les journalistes. Un prochain objectif, l'or olympique. Elles étaient en argent il y a 2 ans et elles viseront donc l'or à Tokyo en 2020. Ça tombe bien. Le succès à l'euro hier les qualifie d'office pour les prochains JO. À noter que côté prime de victoire, eh ben c'est 40 000 euros par joueuse, comme pour les garçons.
Ah, ça,
dans le handball depuis 20 ans, c'est l'équité parfaite côté prime.
Magnifique. On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
19, comme le classement ce matin de l'équipe de foot de Monaco après 18 journées de Ligue 1. 19e sur 20, ils sont ceux après une 10e défaite hier soir. 3-0 à Lyon. Ces Lyonnais qui, eux, ce matin, sont en troisième. Derrière les Lillois qui ont gagné hier 3-2 à Nîmes. Nice-Saint-Etienne, un partout. Et puis aujourd'hui, à partir de midi, un tirage au sort des Coupes d'Europe. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour Paris et Lyon. Les 16e de la Ligue Europa pour Rennes.
Merci, c'était le journal de Jérôme Lacroix. Et je l'avoue sans rougir, grâce à vous, Jérôme, je peux chanter. Qu'il est bon de chanter en survêtement.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec un point météo suivi de très près par le Pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis à 5h10, chaque matin, Europe 1 vous fait découvrir des Français qui l'ont fait. Quoi donc ? Vous aimeriez bien savoir, coquinou. Eh bien, tout plaqué pour vivre à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on partira à la rencontre de Lucille Bourdet, une nomade numérique. Elle bosse, mais par télétravail, en changeant de pays au fil de ses envies. Là, elle est en Thaïlande. Mais d'abord, l'heure est venue de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta, me semble-t-il.
Tout à fait.
Avec une amélioration et le retour même du soleil, m'annoncez-vous.
Oui, c'est une journée assez calme et ensoleillée qui nous attend dans l'ensemble, car on aura encore après dissipation de quelques nuages bas, on aura déjà beaucoup de soleil après dissipation de ces nuages bas ce matin sur tout le nord-ouest. Ça reste encore un peu perturbé sur l'est, le massif central, la région Midi-Pyrénées, la Corse, on aura encore de la pluie ce matin, des orages possibles même pour la Corse, mais là aussi, on aura du mieux dans l'après-midi avec le retour des éclaircies. Le vent, lui, soufflera bien près de la Méditerranée, qui va rester près de la Méditerranée, ça sera dégagé toute la journée. Du vent aussi pour la Bretagne et la Corse, le tout sous des températures plus douces avec cet après-midi une moyenne de 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 11 à 14 degrés pour la moitié sud.
Merci Céline. Eva, on me signale une grande activité sur le 3615 Twitter.
Ah oui, c'est ça, exactement, parce que dans la presse ce matin, il y a beaucoup question de, des jouets. Vous savez, ces jouets à la mode en cette année 2018, mais on leur a demandé aux auditeurs quels jouets à eux a marqué leur enfance. Eh bien Aurélie nous dit les Playmobil en tout genre et le Uno, et j'y joue avec mon fils maintenant. Il y a Olivier qui dit mon train électrique que j'assemblais dans ma chambre, mais je ne rangeais jamais, ce qui ne faisait pas forcément plaisir à mes parents. Et Quentin, lui, il se souvient d'une boîte de Capla. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? C'est une petite planchette en bois.
Tout à fait.
Voilà. Alors,
j'ai été un enfant.
C'est
Eva,
vrai.
Moi aussi.
Ah ouais. Il adorait faire ses constructions que sa grande sœur, s'empressait évidemment de renverser dès qu'elle passait dans sa chambre. Forcément. Merci pour tous vos messages. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui muscle votre cortex tout en vous lustrant les zygomatiques, ce qui fait preuve soit d'un certain talent, soit d'une certaine souplesse. Chaque matin à 5h10 dans Fallait oser, Europe 1 vous présente quelqu'un qui a osé changer de vie. Aujourd'hui, direction la Thaïlande, c'est là-bas que vit Lucille Bourdet, une jeune femme de 31 ans qui a choisi un mode de vie minimaliste pour pouvoir voyager plus facilement.
Fallait oser.
Cette année, j'ai décidé de vivre en Thaïlande. L'année dernière, j'ai vécu au Portugal et en Grèce. Voilà, donc c'est mon mode de vie nomade, puisque c'est ce que j'aime, donc je travaille sur internet, j'ai la chance de pouvoir travailler en fait de n'importe où, étant donné que j'ai juste besoin d'une connexion internet. Donc voilà, c'est un peu les nouveaux nomades d'aujourd'hui, puisqu'on est de plus en plus nombreux d'ailleurs. C'est tellement possible maintenant, vous avez beaucoup de sites de travail en ligne sur différents profils, hein, que vous soyez développeur web, que vous travaillez comme rédacteur web, ça se fait énormément. Il suffit voilà, de se lancer et puis de voir. Alors au début, on tâtonne et puis ensuite, eh ben, on commence à se perfectionner chaque jour et puis voilà, on s'épanouit aussi.
Et ça fait 8 ans que Lucille vit de cette façon. Concrètement, quand elle arrive dans un pays, elle loue un appartement. Et quand elle en a marre, bah, elle change de pays.
Voilà, mais alors reste une question essentielle. Comment elle fait pour vivre ? Eh bien, elle travaille à distance, qui lui permet d'avoir un salaire régulier.
L'essentiel de ma vie se trouve dans une valise d'à peu près 10 kilos. Mon ordinateur pour pouvoir travailler des affaires de sport, parce que j'aime bien aussi pouvoir faire du sport partout où je vais. Et puis, très peu de choses finalement, quelques vêtements nécessaires d'hygiène. Et mon essentiel à moi, c'était de pouvoir voyager, vivre à l'étranger. Donc voilà, j'ai décidé de me débarrasser du superflu. Plus on s'allège et plus on est heureux.
Si vous voulez en savoir plus sur ce mode de vie minimaliste de Lucille Bourdet, il y a un blog, le sien s'appelle Positive Essence.
Et si vous aussi vous avez des témoignages de changement de vie à nous apporter, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, sur le site internet d'Europe 1.
Europe 1, il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous êtes sur Europe 1, nous sommes le lundi 17 décembre, vous écoutez Debout les copains. Comment expliquer le concept hybride de cette matinale aux auditeurs et auditrices qui nous rejoindraient seulement aujourd'hui ? Eh bien c'est finalement assez simple, c'est à la fois très très sérieux et également très très con.
C'est toujours avec beaucoup de regrets que l'on quitte le ministère de l'Intérieur.
Oui.
Parce que C'est un très grand mystère.
C'est un peu comme si on bruitait un discours de Gérard Collomb avec Bénil. C'est un peu le résumé de notre matinale. À suivre, notre page santé. Le docteur Ichoux tire la sonnette d'alarme pour les retardataires. C'est actuellement le moment ou jamais de se faire vacciner contre la grippe. Après, ça risque de faire un peu tard. Et puis, bien sûr, nos bons tuyaux, culture et nouvelles technologies arrivent avec notamment une nouvelle version réjouissante de Pierre et le Loup qui émerveillera vos enfants. Des coffrets DVD pour Noël, en veux-tu, en voilà. Et cette question, comment savoir si vous êtes victime de la nouvelle faille de sécurité qui a frappé Facebook ? Des millions de photos privées ont été divulguées. Et là, vous me dites, comment souffler lorsqu'on est confronté à tant d'infos exclusives et ébouriffantes ? Eh bien, avec Maria Carré, que l'on écoute tout de suite sur Europe 1. Oh, une chanson qu'on entend peu en ce moment.
Jamais.
All I want for Christmas is you.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Les 100 euros supplémentaires pour les salariés rémunérés à hauteur du SMIC passeront par une hausse de la prime d'activité, détaille ce matin le Premier ministre dans le journal Les Échos. Premier versement le 5 février. Mais attention, elle ne concernera pas tous les salariés au salaire minimum. La prime d'activité tient en effet compte de l'ensemble des revenus du foyer. Le Premier ministre qui reconnaît par ailleurs que le pouvoir n'a pas assez écouté les Français, et il ouvre le débat sur ce qui devient l'une des plus grandes revendications des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Enfin, à Strasbourg, l'attentat de mardi dernier a fait une cinquième victime. Un homme de 36 ans d'origine polonaise, très impliqué dans l'activité culturelle en Alsace. Il était en état de mort cérébrale.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 17 décembre 2018. Vous connaissez le principe de Debout les copains, c'est une matinale enrichie de sons divers et variés. Et exceptionnellement, je n'ai pas eu le temps d'écouter le tout nouveau sponsor qui accompagne les pronostics hippiques de Thierry Léger. Alors, amis auditeurs, une fois n'est pas coutume, je le découvre, mais c'est vrai, hein, en même temps que vous.
Fédération française d'équitation.
Le cheval, c'est génial.
Le cheval, c'est trop génial.
Bande d'ordures. Et oui, c'est vrai que je suis moi aussi enregistré dans ce studio, ce qui vous promet des moments encore plus ridicules que d'habitude. Voilà un sponsor idéal pour les pronostics hippiques de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 302 des Aguadero. Parmi les 16 chevaux au départ de ce quintet, c'est lui qui possède de loin les meilleurs titres, confirmé à ce niveau et vainqueur de deux courses l'hiver dernier sur cette piste cagnoise. Je sais que tout a été fait pour qu'il puisse être fin prêt en vue de cet objectif. Avec l'aide du terrain désormais très souple voire lourd, sur lequel il vaut quelques longueurs de mieux, il peut être considéré ici comme une certitude à l'arrivée. Alors notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 2 des Aguadero.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec ce moment privilégié du petit matin où tous les membres de la colloque DLC se retrouvent autour d'un jus d'orange pressé.
Et ça rime.
Oui. Jérôme Lacroix, le Casanova d'ici les moules, pète le feu. Il n'en finit plus d'enchaîner les aventures et les records, témoin sa dernière conquête.
Vieille de 98 ans.
Oh là, mais qui sommes-nous pour juger, hein ? Eva Rock reproche à Céline Dacosta de ne chercher l'amour que sur les sites de rencontres.
T'es encore sur Tinder ? Moi, je peux pas cartonner sur Tinder. Bon, d'abord, je suis pas inscrite, mais...
S'autogrille. Quant à Céline Dacosta, effectivement boudée par son ex-étalon, elle se réfugie dans les paradis virtuels du net en surfant sur le web plus que de raison.
Maintenant, à quoi il ressemble, c'est Thierry Léger et... Ah, c'est lui Thierry Léger.
Oui, bref, reprenons nos esprits car voici le pressing. Notre revue de presse en mode zapping, les amis. À la une de vos journaux ce matin, la crise des gilets jaunes. Les Échos y consacrent un grand dossier porté par une interview d'Édouard Philippe sur les modalités des mesures annoncées par Emmanuel Macron la semaine dernière. À propos du président de la République, Libération titre sur le premier jour du reste de son mandat. Pendant que le Parisien s'interroge sur les référendums citoyens, faut-il en passer par là ? Et vous, mes dévoreurs de canards, qu'avez-vous déniché dans les journaux ? On commence par vous, Eva.
Hare Krishna, Hare Krishna.
On part en Inde.
Oui, bienvenue.
Oh, lucidité,
Céline Dacosta. Bravo, Céline Dacosta.
Effectivement, nous ne partons pas en Afrique du Sud.
C'était pas cool, de gang.
C'était pas un piège. C'était pas un piège. Bienvenue à Pune, les amis, dans l'état du Maharashtra, à Pune.
Pune.
Oui, en Inde, 3,5 millions d'habitants.
Pune pour les Antilles.
Oui, et un centre de méditation niché sur 11 hectares de terre. C'est le lieu de naissance d'une des aventures spiritualo-politiques les plus folles des dernières décennies. C'est Sébastien Farcy qui raconte ça dans Libération. C'est ici en effet.
C'est étonnant que ça s'appelle Farcy en plus.
Bah, oui, je suis désolée.
Et vous êtes sûr que c'est pas un 1er avril ?
Non. Il y a un S à son nom de famille, mais a priori, moi je le prononce pas avec mon accent du Sud, mais je sais pas si on le prononce ou pas. En tout cas, c'est ici en effet que dans les années 70 s'est installé un homme surnommé Osho. C'est un guide spirituel indien portant vêtements bouffants et barbe fournie. Sa théorie, selon lui, pour s'élever spirituellement, pas besoin de rester en position du lotus pendant des heures. Lui prône pour la méditation dynamique. Résultat, il est conseillé aux adeptes de rire, pleurer, se rouler par terre, crier, n'importe quoi. L'important, c'est
mais
que les émotions
dans
sortent.
Dans ces moments-là.
Ben, ce qu'il faut absolument que vos émotions sortent, en fait. Et sauf que l'une des énergies les plus fortes et difficiles à canaliser, je cite Libération, c'est le désir sexuel. Alors Osho va briser ce tabou et laisse ses adeptes à s'adonner à leur fantaisie, ce qui lui vaut le surnom un peu exagéré de gourou du sexe. Il n'empêche, il va séduire toute la communauté hippie dans les années 70 et c'est comme ça qu'il y a des dizaines de milliers d'occidentaux qui ont débarqué dans ce havre de paix en Inde. Ça a fortement déplu aux autorités indiennes. La communauté a fini par s'installer dans l'Oregon aux États-Unis, mais là c'est les chrétiens conservateurs qui vont les pourchasser. Osho est décédé en 1990, mais son héritage spirituel vit toujours. Alors à travers sa littérature notamment, il a écrit plus de 600 livres au cours de sa carrière. Et puis dans les centres qui se revendiquent de sa méthode, il y a 300 établissements dans 30 États encore aujourd'hui et des communautés d'adeptes qui ont émergé dans plus d'une cinquantaine d'autres pays. Ça va du Kazakhstan au Guatemala, partout dans le monde. Et cette zen attitude, figurez-vous, c'est aussi un business. Osho d'ailleurs a toujours affirmé que cette libération spirituelle n'était pas du tout contradictoire avec le bien-être matériel. Pas besoin d'être pauvre pour méditer. Il adorait d'ailleurs,
parader
dans une de ses multiples Rolls Royce.
Ah bah oui,
voilà.
Évidemment.
Et le centre de Pune est décrit comme un hôtel de méditation 5 étoiles avec club de sport, jacuzzi, piscine et sauna. Je me suis dit que c'était de la méditation pour vous, Mathieu Noël.
Mais il n'y a pas surtout des détails sur les pratiques exactes de ce Love Guru.
Non, mais c'était. Mais vous avez déjà vu ces images où les gens sont complètement en extase, mais c'est vrai qu'ils bougent beaucoup, les gens se roulent par terre, crient. Vous n'avez pas vu ces images-là ?
Je crois que Céline, visiblement, l'a pratiqué.
Non, pas du tout, mais sur Netflix, il y a un documentaire.
Exactement, qui décrit.
Incroyable. Ah non, je vous le conseille.
Cette communauté qui est un documentaire, excellent documentaire.
On retrouve le nom du documentaire pendant cette séquence et on le donne à nos chers auditeurs. Wild Wild Country.
Exactement.
C'est noté, c'est sur Netflix,
voilà, c'est
pour
sur
mieux
Netflix,
connaître
exactement.
Cette pratique à Pune.
C'est à moi.
Céline D'Acosta, oui, je ne sais pas pourquoi, je suis hypnotisée par Jérôme Lacroix. C'est certainement ces phéromones qui dégagent exceptionnelles dont on parle.
C'est une sorte de parité, je pense.
Ça doit être ça, voilà.
C'est parce que j'avais déjà parlé, donc c'est bon.
C'est pour ça. Céline, c'est à vous, évidemment.
Alors Noël approche, avec lui les traditions de Noël. Il y a une tendance qui nous vient d'Angleterre en passe de devenir une tradition, à tel point qu'il existe désormais la journée mondiale du pull moche de Noël. C'est vendredi.
Mais ça, c'est vous qui l'avez lancé.
Oui, alors mais c'est vendredi, c'est le 21 décembre, le jour où nous avons choisi, avant même de savoir que c'était le jour du pull moche de Noël, pour célébrer Noël. Pourtant, tout le monde va le porter.
Comment on n'a que des pulls beaux de Noël ? Comment on fait ?
On va avoir un pull beau, vous inquiétez pas.
On espère que dans le regard, dans l'œil de l'autre, il soit moche en fait.
L'idée, c'est de mettre un pull de Noël après, qu'il soit moche, c'est pas très grave.
J'essaie de vous surprendre.
Alors si vous n'avez pas encore trouvé le vôtre, sachez qu'il y en a un qui va sans doute remporter le premier prix. Il a plein de figurines de Noël et clignote, il lui manque une manche. C'est un pull pour la bonne cause, car il a été conçu pour inciter au don de moelle osseuse qui se fait dans 75% par prélèvement comme une prise de sang, d'où l'idée d'avoir ce bras nu. C'est le docteur Evelyne Marie, directrice des prélèvements à l'agence de biomédecine, qui l'explique dans cet article trouvé dans Aujourd'hui en France. Ils ciblent les jeunes, hein, c'est pour ça qu'ils ont fait ce pull, parce que ça va être également sur les réseaux sociaux avec le hashtag le plus beau pull de Noël. Donc ils ont eu l'idée de ce pull moche pour sensibiliser. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, des youtubeurs et influenceurs connus comme Hassan, Julien Méniel ou Mathias Malzieu vont porter
bien.
Ce pull et ce message. Le chanteur Dionysos, qui a eu une grave maladie de la moelle osseuse, le portera aussi. Une grève de moelle osseuse, ça permet de traiter les maladies les plus graves comme les leucémies. Alors quand vous porterez votre pull moche, pensez-y. Allez faire un petit tour sur le site dondemoelleosseuse.fr. C'est jamais facile de prendre la décision, mais si ça peut vous aider à faire un don, c'est très bien. Et c'est à lire dans Aujourd'hui en France.
C'est une bonne idée.
Mais oui. Sachant que le pull en question n'est pas commercialisé, c'est vraiment pour faire de l'alerte. Vous voyez, pour avoir
vous
un outil
communication
sensibilisé. Je vous le montre.
Sensibilisé, ouais. Je trouve ça plutôt malin, plutôt que de lancer encore un objet à vendre.
Il est très joli ce pull.
Et puis il clignote en plus.
Oui. Mais il manque un bras quand même.
Oui, il manque un bras, mais non, c'est intéressant. Moi, je vais peut-être venir avec celui-là. Si toutefois, il n'est pas en laine, parce que vous savez que je ne supporte pas la laine, ça me gratte.
Ah, c'est vrai ?
Ou plutôt, ça me démange et je me gratte. Oui. Voilà des infos, à mon avis, essentielles pour nos auditeurs qui se réveillent à 5h24 du matin
aussi, ouais.
De connaître des détails dermatologiques de ce genre. Jérôme Lacroix, je me tourne vers vous.
Outre la sensibilité de votre épiderme, moi, j'ai d'autres bons tuyaux pour vous ce matin. Ça va peut-être un petit peu plus, pardonnez-moi, intéressé.
C'est possible.
Ce sont les résultats d'une étude comparative que seuls deux médias vous dévoilent ce matin, Europe 1 et Le Parisien. Il s'agit de savoir comment faire des économies sur les billets d'avion. Quel est le meilleur jour pour réserver et quel est le meilleur jour pour voyager ?
Exactement. Oui.
Le meilleur jour pour réserver.
Mardi minuit. Non, c'est pas
ça. C'est le jeudi.
Oui, je savais.
Le jeudi matin. Connectez-vous sur Internet le plus tôt possible, genre 6h30 du matin. Le jeudi, alors quelle que soit la date de votre vol ou votre destination, ce sont les prix les plus bas. C'est comme ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, on est éloigné du week-end précédent qui démarre donc le vendredi. Le jeudi, il y a peu
peu de demande et les prix baissent. Exemple, différence en moyenne de 39% entre un Paris-Barcelone réservé un mardi et le même voyage réservé par exemple un jeudi. Quel est le jour où ça coûte le moins cher de voyager ? C'est le mardi, statistiquement. Ça,
donc,
c'est vraiment
on réserve le jeudi matin pour
alors
un
voilà,
mardi,
attendez,
pour
à la,
départ
à,
le mardi.
À la fin,
là,
je fais une petite compile. Voilà, statistiquement, ce sont les prix les plus bas le mardi. Alors, la bonne période pour voyager, c'est septembre. Évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité loin de là de partir en septembre. Et pour la durée, alors c'est soit moins d'une semaine, soit plus d'un mois. Voilà. Parce que, ouais, voilà, c'est vrai que ça peut paraître un peu aberrant, mais en fait, mécaniquement, c'est parce que ce sont les durées les moins demandées, tout simplement. Mais là, je vous disais, quel est le jour où ça coûte de voyager le moins cher, oui. De voyager. Mais le prix du billet, ce n'est pas le seul critère. Il faut aussi penser aux conditions du voyage, d'où cette question. Quels sont les jours où le trafic est le plus fluide ? Eh bien, en fait, c'est le mercredi, le jour où traditionnellement les retards et les annulations sont les moins fréquentes, c'est comme ça. Alors, idéalement, c'est un embarquement avant 8 heures pour éviter tout désagrément et surtout
8 heures du matin ?
Oui, 8 heures du matin, pardon. Oui. Et surtout, éviter la fin de journée. Après 18 heures, ça devient souvent bien plus compliqué.
Le retard est accumulé pour les vols.
Voilà, exactement. Alors, si je devais synthétiser. Connectez-vous le jeudi matin pour réserver votre billet.
Très tôt, hein, voilà, 6h30, 7h. Voilà. Vous écoutez Debout les copains et dans la foulée.
Voilà, au moment de la dernière
voire même
demeure,
au moment de Michael Darmon. Hop.
Voilà. Vous réservez pour voyager un mardi pour payer le moins cher, un mercredi pour éviter retard ou perturbation, c'est selon votre priorité, hein, et pour une durée donc soit de moins d'une semaine, soit de plus d'un mois. Dernier tuyau, pour un week-end de 3 jours, la solution top, c'est départ tôt le samedi matin pour un retour lundi. Avant 15h.
Ah bah bien sûr,
c'est ce qui garde. Mais il faut le
pouvoir. Donc lundi, premier au mois de janvier, vous m'attendrez le lundi. Hein, voilà.
Les amis, merci pour tous ces conseils. Le pressing referme ses portes de mauvaise humeur ce matin, puisqu'il est assez en colère que ce soit fini.
Ça, vous allez me rembourser le pressing, c'est moi qui vous le dis, hein.
Ça m'étonnerait, c'était gratuit.
Europe 1, il est 5h28, Mathieu Noël.
Tu vois, c'est que Jérôme, il s'émerveille des sons.
C'est le blind test.
Je reconnais.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani à suivre. Bidonnant réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h29, Mathieu Noël.
Ma chère Céline Dacosta, si nous faisions un point sur la météo de ce 17 décembre, il me semble qu'il y a un retour net des éclaircies.
Oui, le temps s'améliore. Alors, on a encore des averses ce matin sur l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Temps toujours agité pour la Corse avec des orages possibles et du vent. De la neige sur les reliefs de l'Est et le Massif central. Encore quelques gouttes pour le Sud-Ouest. Partout ailleurs, le soleil fera son retour après dissipation de quelques nuages basses ce matin. Et les températures sont plus douces que la semaine dernière, avec en ce moment 2 degrés. C'est la plus basse à Mulhouse. Il en fait 5 à Lyon, à Lille, 7 à Paris, 8 à Bordeaux, 10 à Montpellier, déjà 12 à Bastia.
Et cet après-midi,
5 à 7 degrés. On commence par les températures dans le nord-est, 9 à 13 pour le reste de la moitié nord. Il en fera 10 à Paris, 11 à 14 pour la moitié sud. L'amélioration se poursuit avec de plus en plus de soleil. Ça restera un peu plus nuageux sur le nord-est et en descendant vers le Massif central.
Merci Céline.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 efficace comme un 2 en 1. Il vous informe au plus profond de l'actu sans négliger de vous divertir grâce à sa nouvelle recette enrichie en bonne humeur. À suivre, le journal d'Hélène Zélani, journaliste impartial qui ne laissera jamais ses opinions personnelles transparaître à l'antenne.
Donald Trump est un des meilleurs présidents américains que j'ai jamais vu.
Oui, et dans la foulée du journal, ce sera notre page santé avec le très sérieux docteur Ichou.
Mais comme disait Lao Tzu, la pédagogie est l'art de la répétition. En fait, c'est pas Lao Tzu, mais j'aime bien citer Lao Tzu.
Marcel qui nous parlera aujourd'hui de la grippe. Pour se faire vacciner cette année, c'est maintenant ou jamais. Après, il sera un peu trop tard.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce lundi 17 décembre 2018. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Libérer les ronds-points, c'est le nouvel enjeu pour le gouvernement après un samedi de mobilisation en baisse. 200 blocages de moins par rapport à la semaine dernière, Info Europe 1. Dans les échos, le Premier ministre Édouard Philippe détaille ce matin les mesures présidentielles pour le SMIC. Les 100 euros supplémentaires seront versés dès le 5 février. Et puis on y reviendra bien sûr dans le journal des sports. Les handballeuses françaises décrochent l'euro. Victoire en finale contre la Russie hier soir.
Europe 1.
Va-t-on vers une sortie de crise des gilets jaunes ? C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement. Ce matin dans les Échos, Édouard Philippe précise les mesures récemment annoncées par Emmanuel Macron. Pas de tournant, affirme le Premier ministre, mais un changement de méthode avec ce mea culpa. Nous n'avons pas assez écouté les Français. Alors que ce week-end, la mobilisation était en nette baisse, l'exécutif estime désormais que la libération des ronds-points est une priorité. C'est donc l'un des chantiers pour les forces de l'ordre dans les jours qui viennent, Pierre de Cossette.
Officiellement, il n'y a pas de calendrier. On évacuera les ronds-points et les secteurs bloqués au cas par cas. Mais dans les esprits, place Beauvau, on a l'échéance des vacances de Noël en ligne de mire. Selon nos informations, samedi, 350 points de blocage étaient recensés, 200 de moins en une semaine, un tiers de baisse. Côté police et gendarmerie, on s'affaire donc pour répondre à la commande de Christophe Castaner, obtenir l'évacuation des ronds-points tenus par les gilets jaunes, en espérant un minimum de recours à la force, même si un haut gradé le concède, on sera obligé par endroit. Du côté du ministre, on est particulièrement préoccupé par les drames qui se sont déroulés au niveau de ces barrages. Directement ou indirectement, 8 personnes y ont perdu la vie et l'on a ressenti une exaspération croissante d'une partie des conducteurs, fait-on valoir dans l'entourage du ministre. Hors de question que ce bilan s'alourdisse. Il faut rendre la route à ces usagers, parfois à bout de nerfs, alors qu'à la fin de la semaine, beaucoup de Français prendront leur voiture pour aller passer Noël en famille ou faire leur dernière course.
Pierre de Cossette. Pour ce qui est des mesures détaillées ce matin par le Premier ministre, les 100 euros nets supplémentaires pour les salariés proches du SMIC passeront par une hausse de la prime d'activité qui sera versée dès le 5 février. Mais elle ne concernera pas tous les salariés au salaire minimum, la prime d'activité tenant compte de l'ensemble des revenus du ménage. Édouard Philippe se dit également favorable sur le principe au RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est une des principales revendications des Gilets jaunes, mais pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelle condition.
Le bilan de l'attentat de Strasbourg s'est encore alourdi hier.
5 morts, 11 blessés, une cinquième victime est décédée à l'hôpital, un habitant de la ville de nationalité polonaise. Plus d'un millier de personnes s'étaient rassemblées dans la matinée dans le centre de Strasbourg, place Kléber, pour rendre hommage aux victimes, avec à la fin une minute de bruit, avec des applaudissements et des cris pour remplacer la traditionnelle minute de silence. Une seule personne reste ce matin en garde à vue, un proche du terroriste qui l'aurait aidé à trouver une arme.
Un repas, il est 5h33.
Et si, contre les violences scolaires, la solution était de sanctionner les familles en leur mettant des amendes ?
Oui, c'est l'idée de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, était hier l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Elle figure parmi les pistes de réflexion du plan violence à l'école. Une amende si la responsabilité de la famille est reconnue.
Toutes les possibilités sont sur la table. Ça peut aussi être une amende, par exemple. Quand un adolescent fait des dégradations sur un mur d'un collège. Et il est normal qu'il soit sanctionné et qu'il répare cette dégradation. Si cette dégradation est coûteuse et grave, c'est à minima le mécanisme d'assurance de la famille, mais en tout état de cause, la famille doit être responsabilisée. On ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien.
Donc là, il pourrait y avoir des amendes.
Non, mais c'est une idée.
Voilà l'idée de Jean-Michel Blanquer qui est loin de convaincre Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN UNSA, syndicat des chefs d'établissement.
Sur le fond, que des responsables légaux, en particulier d'élèves mineurs, ne puissent pas se sentir complètement exonérés des incivilités commises par leur enfant, ça paraît plutôt de bon sens. Maintenant, sur la capacité à prononcer une amende, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Ça veut dire création d'une infraction ou d'un délit. Et puis ensuite, ça pose la question du constat. Lorsqu'on a affaire à ces familles, dans la majeure partie des cas, elles sont assez atterrées de ce qu'a pu commettre leur gamin. C'est déjà assez lourd à porter pour elles, donc c'est peut-être une piste. Faut-il la creuser? Je ne sais pas. Et si on la creuse, il n'est pas certain qu'on arrive à la mettre en place au final.
Le représentant du syndicat des chefs d'établissement avec Hélène Tarzian. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla. Cette fois, cela concerne des violences le 1er mai, mais au Jardin des Plantes. Il a été entendu fin novembre par les juges d'instruction. Theresa May face aux parlementaires britanniques aujourd'hui. On connaît déjà la teneur du discours de la Première ministre, elle lancera une mise en garde contre la tenue d'un second référendum sur le Brexit. Selon elle, elle provoquerait des dégâts irréparables et diviserait encore le pays. Et puis avis aux fans de Bob Dylan, il donnera 3 concerts au Grand Rex à Paris. Ce sera les 11, 12 et 13 avril prochains. Prix Nobel de littérature, la star poursuit son Never Ending Tour, autrement dit sa tournée sans fin. Elle a été commencée il y a maintenant 30 ans quand même.
Effectivement, c'est vraiment sans fin. C'était le journal d'Hélène Zellani. Merci Hélène. Hélène, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous adore. Et si je ne vous dis pas plus souvent, c'est parce que, question drague, j'ai pris quelques kilomètres de retard sur Nico Saliegas, qui lui n'y va pas de main morte avec vous, la preuve.
Elle irradie le studio quand elle arrive. Hélène Zellani, bonjour Hélène.
Bonjour, trop gentil.
C'était la belle voix d'Hélène Zellani pour le journal de 7 heures.
Ça vous dirait un petit tour sur la Lune, Hélène?
La matinale avec Hélène Zellani, si on faisait une micro-sieste.
Shabadabada.
Oui, shabadabada. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Comme Jérôme Lacroix, je ne lâche jamais l'affaire.
c'est chaud.
C'est ultra chaud, hein,
ouais.
Tout ça, on aura de grandes écoutes en plus. Il y a des enfants qui peuvent écouter. C'est ça qui est chaud. Jérôme Lacroix, la fête hier soir à Paris.
Eh oui, plus de 14 000 spectateurs.
C'est pas dans notre studio.
Euphorique, oui, au coup de sifflet final hier dans France-Russie étouffant. C'était hier en toute fin d'après-midi, donc à Bercy, victoire française 24-21. Les handballeuses sont championnes d'Europe devant leur public, leurs amis, leurs familles. Nouvelle consécration continentale, cette fois un an après le gain du titre de championne du monde. Et c'est la première fois de l'histoire que ces bleus-là décrochent le titre européen. L'une des clés de la réussite, c'est l'alchimie entre les jeunes et les anciennes. On va démarrer par une ancienne, entre guillemets, Camille Eglon-Sorina, 33 ans, 262 sélections.
Franchement, c'est merveilleux ce qu'on vit et le partager forcément à la maison avec les proches. Même s'il a fallu que je cours après mon fils qu'on avait mis tout en haut de Bercy, et ben ça a forcément une saveur encore autre. C'est juste merveilleux.
Et le grand écart au niveau des âges. Hein, dans l'effectif, il y a aussi Laura Flip, 24 ans, Orléane Canor, 21 ans et même... Pauletta Foppa, elle en a 17-18 samedi, en fait, également championne d'Europe ce matin. Pauline Coatanea, 25 ans, et selon elle, la victoire dépasse un cadre purement sportif.
J'ai envie qu'on existe, et là, on a montré qu'on existait dans le handball français, qu'on était excellente dans ce domaine, et qu'il n'y avait pas que les garçons. Et aujourd'hui, on a été mis en lumière, et c'est super pour le handball français et pour les femmes en général.
Des propos recueillis par Christophe Lamarre, et la parité en handball, c'est dans les primes. Hein, 40 000 euros pour chaque Française pour la victoire. C'est la même somme que les garçons quand ils gagnent le titre européen. Qualifie les filles pour les prochains JO Tokyo 2020, le dernier grand titre qui manque à leur palmarès. Et elles avaient été battues en finale seulement en 2016 par les Russes, justement, contre qui elles ont donc pris leur revanche hier soir.
Le foot, Jérôme, et la bonne semaine des Lyonnais.
Qualification mercredi dernier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et victoire hier soir en Ligue 1, 18e journée, 3-0 à domicile face à des Monégasques toujours en grande difficulté. Un avant-dernier du classement, les Lyonnais sont 3e, 3 points derrière les Lillois qui ont gagné 3-2 à Nîmes hier. Nice-Saint-Etienne, 1 partout, dernier résultat. Aujourd'hui, à partir de midi, les Lyonnais mais aussi les Parisiens connaîtront leurs adversaires respectifs en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce peut être Barça, Real, Juve notamment pour Lyon, ou Atlético de Madrid, Tottenham ou Manchester United pour le PSG.
Jérôme, quelle est donc votre personnalité du jour ?
J'ai choisi Maurice Magnifica ce matin. Ski de fond, 32 ans, deuxième hier en Suisse du 15 km libre, quatrième étape de Coupe du Monde, et c'était pour lui la première parce qu'avant il était en méforme et il a signé son retour. Belle deuxième place derrière un Russe, il s'offre le 30e podium de sa carrière.
Merci Jérôme Lacroix. Jérôme, c'est vraiment le couteau suisse de la rédac d'Europe 1. Irréprochable sur l'actu, incollable sur le sport. Et pour tous vos problèmes de logistique, n'oubliez pas qu'il est aussi...
chauffeur routier, auto-entrepreneur dans la rénovation et le dépannage en Isère.
Il fait tout. C'est très pratique Jérôme Lacroix.
Et les 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'infos rigoureuses, délicatement badigeonnées d'une couche d'humour appliquée au pinceau par Eva Rock et Céline Dacosta. À suivre, lundi, les bons tuyaux, un grand shoot d'actu culturel 100% légal pour épater vos collègues à la machine à café, avec une palanquée d'idées cadeaux pour Noël. Et cette question, faites-vous partie des victimes de la nouvelle faille de sécurité de Facebook ? Des millions de photos privées ont été divulguées. Sans oublier évidemment notre page santé. Et ce matin, Axel de Tarlet, notre spécialiste économie et enfantillage, a très très peur de ce que lui réserve le docteur Ichou.
Docteur, attendez, qu'est-ce que vous allez me faire ? Une piqûre dans les fesses.
Et oui, une bonne piqûre dans les fesses, c'est les derniers jours pour se faire vacciner contre la grippe. Devez-vous le faire ou non ? Le docteur Ichou vous répond.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, une fois que vous aurez ouvert votre micro,
oui,
nous procéderons à la météo. Car les gens ont envie de savoir, est-ce que le soleil revient sur la France aujourd'hui ?
Oui, il va revenir. Ce matin, c'est encore assez perturbé sur l'Est, avec des averses, de la neige sur les reliefs, des pluies, voire des orages pour la Corse et quelques gouttes aussi dans le sud-ouest. Ailleurs, ce sera déjà ensoleillé, après dissipation de quelques nuages bas. Cet après-midi, le soleil revient quasiment partout. Il restera quelques gouttes près de l'Atlantique, un petit peu plus de nuages avec encore de faibles averses sur l'Est. Grand soleil près de la Méditerranée avec du vent. Vent également pour la Corse et la Bretagne. Quant aux températures, elles sont plus douces et vont le rester toute la semaine. Elles vont même grimper en fin de semaine avec dimanche une prévision de 13 degrés en moyenne sur la moitié nord, 16 pour la moitié sud. On se dirige vers un Noël très doux côté thermomètre.
Oh, mais ça veut dire un Noël sans neige alors, ça c'est un peu triste.
Oui, en tout cas, oui, chez nous, oui.
Eva Rock.
Dans la presse ce matin, il est beaucoup question des jouets à la mode en ce Noël 2018. Mais pour vous, quel jouet a marqué votre enfance ? Et bien sûr Twitter. Avec le hashtag Europe 1, vous êtes très nombreux à nous répondre. Sébastien et Sophie, par exemple, exemple, nous parle du télécran. Vous savez, cette ardoise magique qu'on se
coupe. Je l'ai acheté, mon fils. Eh ben, nouveau... Il a bien aimé.
Oui, parce
à l'heure
que c'est
de
toujours...
l'iPad,
exactement.
Ça reste rigolo.
Ouais. Et puis Anne nous envoie un super message. Ses premiers souvenirs, c'est une trottinette en forme de luciole verte et un violon électrique. Et puis plus tard, ça,
ça
a été...
Ça devait faire la joie de ses parents,
et oui,
le violon
exactement.
Électrique.
Mais plus tard, ça a été la demande en mariage de son mari.
Oh,
voilà.
Ça, c'est
trop mignon.
Je vois pas pourquoi c'est un jouet de Noël, mais enfin bon.
Non, c'est le jour de Noël qui lui a fait sa demande.
Ah, il a fait le jour de Noël. C'est bizarre de cumuler deux événements comme ça.
Ah bah
demande
oui.
en mariage le jour de Noël.
Et si en plus elle se marie avec Mathieu Noël, ça ferait trois événements.
Très bien, merci Eva. Merci chérie.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
5h42, l'heure de retrouver notre page santé. Bonjour Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
Le vaccin contre la grippe est en vente depuis le début du mois d'octobre dans les pharmacies. Chaque année, le virus touche entre 2 et 6 millions de Français. Il est recommandé à certaines personnes fragiles de se faire vacciner. Alors déjà, un petit point, où en est l'épidémie, docteur Ichoux ?
Pour le moment, les clignotants sont au vert. On n'a pas beaucoup de cas de grippe. Et le terme d'épidémie est donné quand, pendant 15 jours consécutifs, on a plus ou autant de cas de grippe que l'année précédente. Donc actuellement, nous ne sommes pas dans un phénomène d'épidémie.
Alors, quid de ce vaccin ? Est-ce qu'il est encore temps de se faire vacciner ?
J'allais vous dire, il est toujours temps. C'est quand même maintenant qu'il faudrait y aller.
Fin mars, c'est un peu bête.
Oui, c'est vrai.
Mais ça m'est arrivé. Une fois, j'avais oublié, je l'ai fait en mars. Mon docteur m'a dit, vous êtes con. J'ai dit, bah oui, vous me connaissez, docteur, vous êtes mon médecin traitant.
Et donc, il est quand même encore temps, parce que comme l'épidémie n'est pas arrivée et que l'immunité met 15 jours pour s'acquérir, on a encore le temps de se faire vacciner.
Oui, alors on peut dire ça, docteur, que ça met 15 jours pour être parfaitement à 100%, mais au bout de quelques jours, c'est déjà
50%. Oui, c'est déjà, de toute façon, ça n'a pas d'incidence et vous aurez toujours une vague immunité qui pourra contribuer à votre guérison.
Vous nous rappelez, docteur, qui sont les personnes à qui l'on recommande fortement de se faire vacciner ?
Alors, en premier lieu, les personnes âgées, d'autant plus qu'elles sont en plus porteuses d'une maladie. En second lieu, les enfants ou même les personnes adultes qui ont une pathologie. Et enfin, les femmes enceintes. Donc, vous voyez, toutes les personnes en situation de fragilité.
Et moi.
Et vous.
Évidemment, par précaution, on ne sait jamais. Merci, docteur Ichoux. On se retrouve demain à 5h40.
Europe 1.
Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains. 2 heures pour prendre l'actu du bon pied et démarrer la journée avec la patate, quitte parfois à user un peu de la méthode Coué.
Allez, ça va aller.
À suivre, le meilleur, tellement fake, le meilleur de la culture sans flinguer son PEL grâce aux bons tuyaux de nos experts au programme ce matin, notamment une version de Pierre et le Loup qui va enchanter votre Noël.
Il est 5h46. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Les 100 euros supplémentaires pour les salariés rémunérés à hauteur du SMIC passeront par une hausse de la prime d'activité, détaille ce matin le Premier ministre dans le journal Les Échos. Premier versement le 5 février, mais elle ne concernera pas tous les salariés au salaire minimum. La prime d'activité tient en effet compte de l'ensemble des revenus du foyer. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur de l'Élysée, est poursuivi pour d'autres violences. Toujours le 1er mai, elles auraient été commises au Jardin des Plantes, juste avant les événements de la place de la Contrescarpe. Enfin, les handballeuses françaises sont championnes d'Europe. Victoire hier à Bercy, 24-21 face aux Russes. Premier titre européen pour les Bleus, un an après donc avoir été sacrée championne du monde.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 17 décembre. Et à l'heure d'ouvrir la page des pronostics hippiques, je dois présenter mes excuses à José Covès. D'ordinaire, sa chronique est annoncée par le thème des 7 mercenaires, western mythique où le cheval est glorifié. Malheureusement, suite à des restrictions budgétaires, ce thème sera désormais interprété directement à la flûte à bec par Eva Rock et Céline D'Acosta. Ça marche aussi, Thierry. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Géfontin, qui nous a rejoint?
Ah non, ça c'est elle, c'est Bernstein, le compositeur, doit se retourner dans sa tombe.
Apparemment, il fait des sauts de carpe dans sa tombe. Mais bonjour, bonjour quand même, José Covès.
Flûte alors.
Quel à propos.
À Cagnes-sur-Mer, à l'occasion de la troisième course, 16 sauteurs sont au départ d'un handicap sur les. J'ai d'abord retenu numéro 2, Desaguadero. Il arrive en super forme sur sa piste de prédilection. Le 12, Le Pesant, vient d'être battu d'un souffle dans une épreuve de même facture. Le 4, Enociento, doit revenir dans la lumière. Puis le numéro 1, Coco Legusta Chocho. Avec lui, c'est toujours chaud devant.
Oh, je l'adore, lui.
Eh oui, quant au numéro 6, Berjou, doué, le voir à l'arrivée ne sera pas une surprise. Trois autres possibilités. Le 15, Almiberg, la forme est là. Le 8, Skinrock, il a le même profil. Il vient lui aussi de s'imposer ici même. Et enfin, le 16, Jenny Shop, elle visera la 5e place. Voici donc mon ticket pour la 3e course vers 13h47. D'abord le 2, le 12, le 4, là c'est le 6. Et l'on ajoute le 15, le 8 et le 16.
Mais dites-moi, José, le nom du cheval, la Coco, le Gustachocho, pouvez-vous, en termes choisis, nous en redonner la traduction ?
Dans la langue de Cervantes, Coco, les Gustachocho est un mot d'amour. Cela veut dire « j'aime ton petit minou ». Le petit minou en question n'étant pas l'animal domestique, qu'est-ce qu'alors ?
Oh là là.
Merci. Gracias, José Cobain.
Il est 5h49.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Grégoire Martinez pour les nouvelles technologies et pour la musique, ce maestro que Karajan considérait comme son fils. Ce touche-à-tout de génie, capable de passer d'un récital de xylophone arménien à un concert de free jazz kurde. De l'évocation d'un opéra italien à l'imitation de Michel Serrault dans La Cage aux Folles 2.
Mais oui, mais... Il n'écoute pas, alors. On va se fâcher, hein.
Eh oui, Thierry Fautin est vraiment un être à part. La légende dit qu'ils sont plusieurs dans sa tête, et c'est vrai que parfois, quand il craque nerveusement, on s'en rend compte.
Calmez-vous.
On se calme, pas peur. Thierry, ce matin, dernière ligne droite avant Noël, et Thierry a déjà un cadeau à nous faire, le fameux conte musical Pierre et le Loup, raconté par l'humoriste Alex Visorek.
Eh oui, c'est un triple cadeau que je vous fais ce matin. Le conte que vous connaissez tous, évidemment, la musique de Prokofiev et un narrateur de premier choix. C'est parti.
Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés verts.
Toute mon enfance, Grégoire Martin. Bon, on
écoute. Mais la mienne aussi,
la vôtre aussi.
Petit.
C'est vrai. C'est deux ans, vous l'écoutiez encore.
Exactement.
Et dans ce studio, tout le monde retombe en enfance.
Oui, on a tous sa version de Pierre Leloup. Moi, j'aime bien Michel Galabru, je dois vous le dire. Celle-ci est particulièrement réussie. Hein. Alex Visorek est fidèle au texte, mais fidèle à l'homme qu'il est, à l'humoriste qu'il est. Il ajoute des gags pendant la présentation, des instruments en particulier, et il prend un plaisir évident à raconter l'histoire.
Pierre et Leloup. Tous les comédiens vous le diront que c'est le rêve de tout le monde. C'est un tube. Donc c'est vraiment chouette de faire ça, d'être avec un public tellement réactif.
Attention, cria Pierre. Et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre.
Alex Visorek qui raconte donc l'histoire de Pierre et le Loup et la musique que l'on entend, c'est un vrai orchestre ?
Oui, 18 musiciens sur la scène et j'ajoute une dessinatrice qui raconte à sa manière le conte en temps réel, les dessins étant projetés en fond de scène. Et je dois vous le dire, c'est très drôle pour les petits et pour les grands aussi. Hein.
Alex Visorek qui ajoute donc son nom à une longue liste de narrateurs, Gérard Philippe, Jacques Brel, Charles Aznavour. Il a une version de référence.
Eh ben non, aucune, parce que pour lui, Pierre et le Loup, c'est une découverte. Ah. Eh oui, tout petit, il n'a pas eu le droit à Pierre et le Loup.
Ça, c'est...
Mais je dois dire que... je dois dire que son plaisir, il le partage vraiment avec le public. Hein.
Alors, dernière question plus compliquée. Est-ce que le canard est vivant ? Une question qui vous poursuivra toute votre vie.
Ça, c'est pas dans le texte. Hein.
Ah oui, c'est Pierre et le Loup de Prokofiev avec Alex Visorek du 26 au 29 décembre au Théâtre Comédia à Paris.
Et ça va devenir aussi un livre CD que vous allez pouvoir acquérir dans quelques jours.
Et si vous ne pouvez pas y aller, en effet, il faut acheter ce livre CD parce qu'il y a beaucoup de talent. Hein. Ce n'est pas qu'un amuseur public, cet Alex.
Merci beaucoup, Thierry
Geoffrotin. Je vais faire un cadeau à Noël, hein, vu que c'est pour mon âge.
Oui, bah évidemment. Voilà. Mais justement, j'y viens. À vos côtés, Thierry, un être de petite taille, ce teint rose, vous l'avez fatalement reconnu.
Voilà, le goret est là. Cric,
c'est vrai que chacun y va de son surnom, mais là, je trouve que vous allez loin, Thierry. Non, pour moi, c'est avant tout Grégoire Martinez, notre spécialiste nouvelle technologie.
C'est aimable.
Grégoire, ce matin, Facebook a été victime d'une nouvelle faille de sécurité. Le réseau social l'a annoncé ce week-end et ça concerne cette fois les photos des utilisateurs.
Eh bien oui, les photos de 6,8 millions d'utilisateurs de Facebook ont été accessibles à certains développeurs d'applications alors qu'ils n'auraient pas dû y avoir accès. Ça s'est passé au mois de septembre. Cette faille, elle a existé entre le 12 et le 25 septembre, ce qui veut dire que les développeurs ont pu accéder aux images de ces à peu près 7 millions de personnes pendant 13 jours. Alors Facebook a corrigé la faille le 25 septembre, mais il ne l'a dévoilé au public que ce week-end, sans qu'on sache vraiment pourquoi il a patienté aussi longtemps entre septembre et mi-décembre pour le dire. Concrètement, ça veut dire que les développeurs, un peu plus de 850 au total, ont pu récupérer les images que vous aviez mis en ligne sur vos comptes Facebook si vous faites partie des personnes concernées. Et dans son annonce, Facebook précise d'ailleurs qu'il va travailler avec eux pour que les photos concernées soient bien supprimées par les développeurs. C'est-à-dire qu'il n'en garde pas une copie, mais sans préciser vraiment comment il va s'en assurer.
C'est impossible, Grégoire, j'y connais rien.
Bah évidemment, c'est impossible, c'est évidemment si tout le problème. C'est qu'on peut les mettre n'importe où. Ils disent qu'ils vont le faire, mais sans dire comment ils vont le faire.
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on a été touché?
Alors oui, vous allez recevoir une notification. Vous l'avez peut-être déjà reçue d'ailleurs ce week-end, tout en haut de votre fil d'actualité, si vous êtes concerné, pour vous prévenir. Mais bon, c'est quand même la deuxième fois en quelques semaines que Facebook est victime d'une faille de sécurité. À la fin du mois de septembre, ils avaient annoncé une première faille qui avait touché cette fois-ci 29 millions d'utilisateurs. Et c'est les données personnelles, genre typiquement votre adresse ou votre nom et la ville où vous habitez, qui avaient été concernées par cette faille à l'époque.
Mais on a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de failles de sécurité chez Facebook. J'ai l'impression que tous les trois jours,
il y a de plus en plus de failles de sécurité tout court. Typiquement Google, en a eu une encore récemment avec son réseau social Google Plus. On découvre de plus en plus de failles de sécurité parce qu'il y a de plus en plus de données aussi mises en ligne sur Internet.
Merci Grégoire Martinez. Eva Roch.
Eh bien écoutez, la semaine dernière, je vous proposais quelques idées de cadeaux des coffrets de séries françaises. Eh bien ce matin, trois nouvelles suggestions pour des séries anglophones et on commence avec ça. Alors les fidèles de cette série auront reconnu la musique de Peaky Blinders, excellente fiction britannique qui a été déjà diffusée sur Arte, qui est disponible sur Netflix, mais qui se décline aussi en DVD et Blu-ray. Alors l'histoire en deux mots, c'est le destin d'une famille de criminels surnommés les Peaky Blinders et qui ont le contrôle de la ville de Birmingham entre les deux guerres. Tout est réussi dans cette série, du scénario à la réalisation en passant par l'interprétation et la bande originale. Le coffret comprend les 4 saisons et une heure de making-of pour environ 67€. Voilà, dans un autre genre, la série saluée par la critique et le public.
Mon nom est Defred. J'en avais un autre avant. Mais il est devenu interdit.
Je sais que vous l'avez vu celle-là, Mathieu, non ? La Servante Écarlate.
Moi, j'ai vu toutes les séries, Eva.
Et Servante Écarlate, vous l'avez vu.
Oui, bien sûr.
Voilà,
et je rappelle à nos auditeurs de surtout passer le cap du 3e épisode.
Exactement.
Ça démarre doucement.
Oui, oui, oui. Tout
ça,
à fait. On est bien d'accord.
À partir du 4e.
C'est l'adaptation d'une dystopie de Margaret Atwood et une œuvre dérangeante mais absolument fascinante. Il est question d'un monde totalitaire dans lequel les femmes sont divisées en classes avec plus ou moins de pouvoir et les tantes habillées d'une robe écarlate n'ont qu'un rôle, celui de la reproduction. Le coffret comprend les 2 saisons. En DVD, vous en coûtera moins de 30€. Et puis, un dernier coffret, parce que c'est un événement, parce que la série qui suit fête ses 50 ans.
Je suis officier de police, je m'appelle Colombo. Encore une ou deux petites questions et ce sera tout. Et ma femme, Madame Colombo, elle, c'est la reine des mots croisés. Il y a un petit détail qui me tracasse.
Vous me plaisez, lieutenant.
Quel bijou de mécanique, une merveille.
Et oui, en 1968 apparaissait un nouvel héros doté d'un imper, Colombo, alias Peter Falk. Vous découvrirez notamment le premier épisode réalisé par un certain Spielberg. Et à l'occasion, mais oui, c'est lui qui avait fait le premier épisode. À l'occasion de cet anniversaire, un énorme coffret a été édité. Il comprend 38 DVD. Alors pour un prix de 55€ et un autre coffret est disponible. Donc les 55€, c'est beaucoup plus cher. Attention, environ 120€. Et il comprend en plus une miniature de la voiture de Colombo. Vous savez, la fameuse Peugeot 403.
Ça, c'est l'idéal sous le sapin.
Voilà,
vous m'offrez
exactement.
Ça, je suis aux anges. Merci beaucoup Eva Roch. Merci à toute l'équipe de Lundi les Montuyaux qui se reformera demain dans
Mardi les Montuyaux.
Oh, vous êtes toujours chaud. Bien joué. Thierry, un dernier mot de conclusion.
Que serait Blanche-Neige sans les 7 nains? Rien.
Très finement analysé.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo du jour avec vous, Céline Dacosta. Oui. Un temps encore agité à l'est ce matin.
Oui, avec des averses entre l'Alsace, la Lorraine jusqu'aux Alpes du Nord, de la neige sur les reliefs. On a encore quelques gouttes également sur la région Midi-Pyrénées, un peu de neige aussi sur le massif central et le ciel sera encore bien agité sur la Corse avec des orages possibles et du vent. Vent qui va bien souffler près de la Méditerranée. Le ciel y sera donc dégagé ce matin comme cet après-midi. Pour les autres, le soleil sera déjà présent ce matin, parfois après dissipation de quelques nuages bas et sera de plus en plus généreux cet après-midi. Après-midi, les pluies, elles, vont se calmer dans l'est, mais on aura encore quelques gouttes, comme sur les côtes atlantiques et le sud de la Corse.
Un mot des températures qui sont à nouveau douces pour la saison.
Oui, avec ce matin 2 degrés à Strasbourg, il en fait 4 à Besançon, 6 à Lille et à Nantes, 7 degrés à Paris, à Brest, 8 à Nice et 12 à Ajaccio. Et puis cet après-midi, la moyenne va de 9 à 13 degrés sur la moitié nord et 11 à 14 pour la moitié sud. Un petit peu plus frais dans le nord-est, hein, avec 5 à 7 degrés en moyenne.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures où, soyez-en sûrs, notre souci de vous divertir ne se fait jamais au détriment de l'information. J'y veille scrupuleusement. Ainsi, à un moment vendredi, j'ai cru que suite à une mauvaise répartition des tâches dans l'équipe, on avait oublié d'évoquer un sujet extrêmement important, l'impasse de la COP24. J'ai très vite été rassuré.
Voilà, c'est-à-dire dans les échos.
Mais alors, dans les échos, vous avez choisi cet article qui est intéressant. On t'a dit, vous n'êtes pas un mot sur cette COP24 d'émissions planétaires sur le climat où ça patine dans la semoule à la
COP24. Parce que vous savez quoi, on est super organisé et Céline Dacosta va vous en parler.
Et non, je n'ai pas choisi ce sujet-là en fait.
Enfin, disons que globalement,
on avait changé.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi la rigueur historique de celui qui, lui, ne se plante jamais. Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1, qui ce matin reviendra sur le sacre européen des Bleus en handball ce week-end. Le handball, un sport lié aux femmes dès ses origines.
Et merci d'écouter Europe 1 en ce lundi 17 décembre.